too.
Dans cette release de CPU, on clone depuis le dépôt, on édite une modif, on commit sa modif et on revert un bug. Nous interviewons Christophe Porteneuf, fondateur et directeur technique de Delicious Insights. L'équipe aujourd'hui est de la Scritch et n'oubliez pas de mettre un message explicite en commit. Bon allez, c'est parti. Bonjour Christophe.
Bonjour Xavier.
Bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui ne sais plus pourquoi tu as raturé ce zgouigoui la semaine dernière sur ton devoir de dessin. Le principe du travail en équipe est immuable. C'est toujours la faute d'un autre. Celui qui a cassé toute la prod, c'est sûrement Donald, Angela ou Emmanuel. Seulement, on se retrouve vite dans une situation de délation et un licenciement pour faute grave sans preuve peut conduire au prud'homme. La gestion de versions de code source en a apporté une solution socialement acceptable. Mais je vais un peu trop vite. Il faut d'abord que je t'explique ce que c'est que la gestion de versions de code source, ou plutôt, comment qu'on faisait avant. D'habitude, quand on enregistre un fichier texte, donc un code source, on écrase toujours l'ancienne version. Alors, quand on a un gros projet, on fait régulièrement des copies du répertoire de travail avec, dans le nom, la date de copie. Et parfois, dedans, des fichiers étaient des copies précédentes d'autres fichiers avec en extension .backup, .fonctionnel, .corrigé, .backup de... Si on voulait retrouver le moment où une fonction n'a plus marché et donc le code source qui était encore fonctionnel, c'était la misère. Autre problème, quand on était à plusieurs à modifier des fichiers sur un même serveur, on se marchait souvent sur les pieds, ta sauvegarde écrasant la modification du collègue à l'étage en dessous, bref... C'était l'horreur. Et puis sont arrivés les premiers logiciels pour gérer des versions de code source. C'était dans les années 70 et surtout en informatique industrielle. On commença à les voir disponibles pour PC à la fin des années 90. C'était une révolution, mais elle demandait des contraintes pour la cause. Au lieu de sauvegarder directement sa modification d'un coup assuré de touche F2, on devait prendre le temps d'écrire la raison des modifications. Et aussi de travailler avec un serveur central, un dépôt du code source qui arbitre les fichiers du projet et comment chacun peut travailler dessus. Tu tires depuis le dépôt, t'édites ta modification, tu commites la raison de ta modification et tu pousses vers le dépôt. Mais pas mal de gens se braquaient devant la nouveauté, maugréant contre la divinité du micromanagement adulé par la direction, alors que le système de version est poussé par quelques développeurs au même niveau que les râleurs, mais pour d'autres raisons. Le premier effet fut de détecter les conflits quand plusieurs personnes éditaient en même temps le même fichier. Il faut alors décider quelles modifications étaient à garder. Une fois que ces conflits furent arbitrés et donc résolus, on pouvait commencer à réfléchir différemment sur les projets conséquents. Plutôt que de travailler dans un seul espace-temps, on imaginait de bifurquer dans le continuum et à causer d'arborescence et de branches. Une branche correspond à une évolution espérée. C'est-à-dire qu'on pouvait bifurquer le projet et espérer plus tard refusionner deux branches vers la branche principale, celle qui donne le produit fini. C'était la théorie. J'ai vu des projets qui avaient plus de 20 branches sur lesquelles on picorait des commits, on répliquait les modifications à gauche, à droite, qu'on appliquait anarchiquement. Une horreur. Alors que la bonne manière d'utiliser les versions veut qu'on réfléchisse en termes de branches de production, en branches de pré-production, en tickets, en branches d'évolution, en demande de fusion, en comité de revue, en termes de livraison acceptable. Bref, ce que l'on appelle un processus. Mais maintenant, on sait pourquoi telle modification a eu lieu, avec les fameuses 5 questions en W que se pose tout enquêteur rigoureux. What? Quoi qui a été modifié? Where? Où que la modif a été faite? Who? Qui a écrit cette modification? When? Quand l'a-t-il faite? Why? Pourquoi? Merci les gestions de version, merci Git, le plus utilisé d'entre eux. Enfant du futur immédiat, je te disais au début que la gestion de version a apporté la solution. Eh ben oui. La commande git blame, git dénoncer, te dira quelle est l'andouille qui a rajouté ce bug dans la ligne 792 qui sévit depuis 4 mois. Comme ça, tu peux aller le voir, lui mettre un soufflon, retourner à ta place, le dénoncer à ta hiérarchie et revenir à ton projet. Comment ça c'est brutal? Ah oui, j'oubliais. Dans la poésie légendaire de son créateur Linus Torvalds, git est à l'origine une insulte. Et je vous en... Clone Me, album ICOM, sorti en 2004. Pour parler des gestions de versions de code source, il nous fallait un expert qui a pratiqué plusieurs d'entre eux, et quelqu'un capable d'en parler 3 heures devant un public sans l'endormir. Nous sommes heureux d'avoir en interview Christophe Porteneuve, développeur web du serveur au navigateur, committer forcené sur GitHub depuis 2008, fondateur et directeur technique de Delicious Insight, et orateur redouté des traducteurs en langue des signes, mais comme notre émission de radio est aussi podcastée, vous pouvez aussi revenir en arrière pour réécouter chaque phrase.
CPU, carré, petit, utile.
Christophe, avant de parler de version de code, toi-même, comment tu es venu au code ?
Moi, je suis venu au code il y a très longtemps. Je suis venu au code surtout quelques jours avant la chute du mur de Berlin. Donc en novembre 89, sur un Commodore 64 dans un grenier. Donc le déclic s'est passé là.
À l'époque, on commitait en faisant des copies sur cassette ou sur disquette.
À l'époque, ouais, je crois que oui, il n'y avait pas de notion de gestion de source, oui.
Comment faisais-tu justement avant de passer un système de versionnement ?
Je pense que je faisais un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on faisait des archives zip et on les eurodatait, quoi. Et puis voilà, puis on les stockait quelque part et derrière on se galérait quand on avait un problème parce que l'archive zip pour redater, c'est un peu comme un backup mal fichu, c'est t'as l'impression que t'es couvert, mais en fait à réexploiter c'est infernal, quoi.
Et donc qu'est-ce qui t'a incité à passer un système de versionnement ?
En fait, ça s'est fait naturellement parce que je travaillais en R&D dans une boîte qui avait déjà ces pratiques-là. Donc moi, j'ai dû commencer à utiliser la gestion de source vers 97, un truc comme ça. Le directeur R&D nous a dit il va falloir commencer à industrialiser, on galère. Il y a des solutions qui existent. Je pense que c'est le tout début de Subversion, mais on a dû utiliser un truc plus propriétaire, plus intégré à ce qu'on faisait à l'époque, mais avec des notions similaires, parce que de toute façon, le périmètre conceptuel de Subversion, c'est le même que celui de CVS, c'est le même que celui de plein d'autres trucs qui existaient à l'époque. Et donc, le détail de l'implémentation n'était pas très important. Je suis venu à Subversion plus lorsque j'ai commencé à collaborer, mais sur de l'open source ou des choses comme ça, où à l'époque, ça se faisait via Subversion, quoi.
Et comment as-tu incité ton entourage à passer un système de versionnement, donc à Subversion pour le coup ?
Là, mon entourage, c'était pas tellement moi. C'est-à-dire que moi, je faisais partie de l'entourage de quelqu'un qui a incité à passer. Moi, j'étais pas le directeur R&D à ce moment-là. Mais le directeur R&D a fait on va passer en gestion de version parce que sinon, c'est infernal. Et effectivement, on en a vu les avantages, même si les avantages sont assez maigres dans un système comme Subversion. Mais c'était déjà plus exploitable que le zip au redaté stocké on ne sait où. Et pour ce qui est de Git, là, ça s'est fait complètement différemment. C'était en 2005, donc à la sortie de Git. Et moi, je faisais partie d'équipe noyau d'une bibliothèque qui s'appelait prototype.js. Et on travaillait également beaucoup. Je faisais partie des contributeurs à Ruby on Rails et on travaillait beaucoup là-dessus. Et le projet Ruby on Rails a migré sur Git extrêmement vite. Et donc, nous, les contributeurs, en fait, on n'a pas eu le choix. Du coup, on a dû passer sur Git. Et à une époque où il y avait assez peu de ressources pour l'apprendre correctement, donc on a eu nos petits mois what the fuck de bascule conceptuelle. Et ça fait partie de ces chemins que tu fais dans un seul sens, en fait. T'as pas du tout envie de revenir en arrière après, quoi.
Donc tu es formateur spécialisé Git. Tu as parlé de Subversion d'ailleurs. Tu fais pas mal de conférences sur comment passer de Subversion à Git. Donc ça veut dire que bon, il y a des avantages et des inconvénients sur les différents moteurs. Mais toi, en tant que formateur spécialisé, il y a beaucoup de demandes. Quelle est la motivation principale de ceux qui te demandent tes services ? C'est apprendre le système de versionnement ou c'est justement pour changer de système de versionnement ?
Alors, même si en France, il y a encore des boîtes de manière assez incroyable en 2018 qui ne versionnent pas leur code stratégique, ce qui pour moi relève du domaine de la faute professionnelle réelle et sérieuse cause de licenciement. Ça arrive, mais c'est une toute petite partie, c'est même pas 3 ou 4% de nos apprenants. Les gens qui viennent en formation Git, c'est vraiment des gens qui vont basculer sur Git parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville et que tout se passe là-bas. ou qui font déjà du Git, mais sur le tas, et qui font ce qu'on appelle du subversion en Git, c'est-à-dire que ils utilisent Git, mais dans la limite des opérations B.A.B.A. de subversion. Et donc, en fait, techniquement, c'est du Git, mais ils ne profitent pas du tout des avantages du système, quoi. Et ils ont envie, justement, de passer la cinquième, quoi, et d'utiliser Git correctement.
Bon, un système de version, en gros, ça fait des diffs de fichiers, ça les regroupe en commits. Est-ce que je l'explique moins bien que toi ?
Disons qu'il y a plus de nuances.
Alors vas-y, je t'en prie.
Mais, bah, par exemple, Git ne fait pas des diffs à la base, mais c'est pas son format de stockage. Mais un système de version, fondamentalement, c'est surtout là, la mission première d'un système de version, il y en a très peu qui remplissent cette mission, c'est de nous libérer en tant que développeur. C'est de le cerveau du développeur, lui, il réfléchit pas linéairement, il réfléchit pas sagement. Il a plein d'idées dans tous les sens, il a envie d'expérimenter plein de choses au fil des heures et des jours. Et pendant ce temps-là, il n'a pas envie de perdre son travail. Il a envie de garder un peu sa santé mentale là-dessus. Et faire ça intelligemment, même quand on est tout seul, sans même parler du fait d'être en équipe et de pas se marcher sur les pieds, c'est compliqué. C'est très compliqué de le faire manuellement. Donc, on a besoin d'un outil qui nous offre cette liberté d'aller poser les choses dans les coins, de les réconcilier derrière, de les récupérer, de les fusionner facilement. Beaucoup pour du code source, mais pour n'importe quoi qu'on écrit, n'importe quoi qui nous prend plus que 5 minutes, devrait être versionné pour pas le perdre. Et ça, c'est la mission fondamentale d'un système de gestion de source. Il se trouve que, pour des raisons historiques d'avancée, de qualité des algos et tout ça, il a fallu attendre des systèmes du niveau de Git, donc 2005, ce qui est hallucinant parce que c'est plus de 40 ans après le début de l'informatique industrielle un peu, pour qu'on ait des outils à la hauteur de ce genre d'attente. Hein. Subversion, moi j'ai tendance à taper dessus en disant que c'est un FTP glorifié. C'est pas vraiment, ça nous offre pas du tout cette liberté là.
On va y venir bien après cette petite pause musicale. Name is Milo et Tom Veck, Woods Branches, extrait de l'album Print is Dead volume 1 sorti en 2006. We'll be right back. écoutez Radio Éphémère, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous interviewons Christophe Porteneuf, fondateur et directeur technique de Delicious Insights et formateur autour de Git. D'ailleurs, Git ou Git ?
Git, c'est un G dur.
D'accord. Alors, on a parlé surtout des développeurs, c'est vrai, qui utilisent ce genre d'outils, mais est-ce qu'un non-développeur peut utiliser un outil de version ? Est-ce que ça marcherait bien pour, par exemple, un document Word ou un dessin fait sous Photoshop ?
Alors, pour la plupart des formats qui, techniquement, sont pas textuels, par défaut, Git va considérer le fichier comme un seul bloc. Et donc, il va simplement archiver une nouvelle version sans faire de diffs spéciaux ou de choses comme ça. Il y a des tas de techno autour de Git ou intégrés à Git, comme Git LFS, comme le Git Virtual File System de Microsoft et tout ça, qui vont nous faciliter le travail par rapport à ça. Et il y a également des outils de diff spécifiques à certains formats de fichiers. On parlait de Microsoft Office ou de LibreOffice ou des PSD ou de ce genre de choses. Des fichiers 3D aussi, les STL et tout ça. Et il y a des outils dédié au diff de certains formats précis, ce qui est assez agréable en productivité, mais c'est par-dessus Git. Git lui-même, si c'est pas du textuel, pour lui, c'est un bloc. Mmh. C'est un bloc binaire.
On a parlé de Subversion. Subversion, GNU Bazar, Git, Mercurial, Codeville, ils sont tous apparus en 2005. On a eu une espèce d'explosion précambrienne des systèmes de versionnement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tout d'un coup,
alors,
ça décolle?
En fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment Git qui a été l'étincelle. En fait, en 2005, tout est parti du noyau Linux. Le noyau Linux, à l'époque, était versionné déjà par une technologie de gestion de version décentralisée qui s'appelait BitKeeper, si ma mémoire est bonne, qui est devenue commerciale du jour au lendemain avec une licence qui n'était pas compatible avec l'exploitation qu'en faisait l'équipe qui maintient le noyau Linux.
D'après ce que j'ai compris, ils avaient un droit d'usage gratuit, le truc était déjà commercial, mais ils n'avaient pas le droit de faire certaines choses à l'intérieur,
voilà, et
ils
se
sont permis de rajouter des outils qui leur manquaient, quoi.
Il y a eu, d'une manière générale, ils se sont retrouvés dans une situation légale où les nouveaux termes de la licence leur permettaient plus de bosser comme il le faisait jusqu'à présent. Et donc, Linus Torvalds est parti dans sa caverne et il a dit, je vais travailler sur un nouveau système qui va remplacer ça. Et il y a un autre membre de l'équipe Kernel qui a décidé d'attaquer le même truc, ce qui a donné le début de Mercurial. Et donc, Git et Mercurial sont effectivement sortis presque ensemble, mais avec des concepts assez différents. Mais bon, Git arrivait avec le poids en termes de soft power de Linus, et du coup c'est vers lui que le travail et les usages se sont concentrés. Je pense aussi que les choix d'architecture qui ont été faits pour Git par rapport à Mercurial se prêtaient peut-être mieux au cas précis de la codebase du noyau Linux. Derrière, il y a eu un effet groupie, culte, voilà, c'est Linux, donc on va vers Git. Aujourd'hui, moi, quand je me retrouve à utiliser Mercurial, par exemple, quand je travaille sur certaines codebases Mozilla, forcément, j'ai un biais, j'imagine, mais je trouve ça plus agréable et surtout beaucoup plus rapide en termes de performance pure de travailler avec Git. Le peu d'impression que j'ai de l'usage de Mercurial est qu'il est beaucoup plus lent. Le Bazar est arrivé dans le même temps parce que dès que quelqu'un arrive en disant les gars, on a une nouvelle classe de problème, tout le monde a envie de faire sa solution, comme on a eu avec les frameworks de test, comme on a eu avec les loaders de script et tout. Et Bazar est intéressant dans son coin, mais déjà le nom donne pas très envie, tu vois. La plupart des gens percutent pas que c'est une référence au bouquin de Raymond.
Et la cathédrale
Bazar,
et le bazar. Voilà.
T'as vachement envie de gérer ton source dans un bazar, tu vois. C'est vraiment le truc. Et du coup, lui, il a simplement jamais atteint la masse critique. Et du coup, j'ai même jamais eu à m'en servir pour quelque projet que ce soit. Donc, j'ai pas d'opinion dessus. Git a gagné la guerre simplement par la force du nombre, en fait. La force du nombre des usages et des utilisateurs et de l'écosystème qui est autour. Et puis, Git, surtout, justement, et on en parlera tout à l'heure, il a sa killer app. Un peu comme Ruby a décollé quand Ruby on Rails est arrivé, alors que Ruby avait 10 ans de plus. Git a vraiment décollé quand GitHub est arrivé, quoi.
Git, ce qui est impressionnant, on disait donc que Linus Torvalds s'est retrouvé à devoir reverser, à changer de système de version pour son kernel et à écrire de zéro, from scratch, un outil. Ouais. C'est un outil qu'il a écrit.
Code, hein.
Oh là. Je rappelle que Git est une insulte, donc.
Ouais, à la base, oui. Git, ça veut dire crétin en anglais britannique.
Ouais. Donc il a écrit en fait un outil fonctionnel en moins d'une semaine. C'est une performance de fou.
Ouais,
quoi.
C'est un peu la légende, quoi. La 01 est sortie en un peu d'une semaine, mais faut voir le bordel que c'était, quoi. Mais ça reste très classe. Ça reste très classe parce qu'algorithmiquement c'est velu. Ceci dit, c'est des algos extrêmement établis, connus, reconnus, avec des implémentations de référence qui étaient là depuis super longtemps dans le CNUT et tout ça. Et donc, puis Torvalds, il n'en était pas à la première fois d'écrire du C, quoi. Donc, oui, du coup, bah voilà. Donc, c'est clairement pas le seul qui aurait pu le faire. Il l'a fait. Je pense qu'il a vu ni sa femme, ni ses enfants, ni son chat pendant une semaine. Et puis voilà.
Oui. Dans un système de version actuel, il y a des propriétés qui sont assez intéressantes, notamment le fait qu'on peut associer des scripts à des actions, c'est-à-dire quand un utilisateur va récupérer un code source ou quand il va poser un code source, ça permet de faire plein d'actions qui sont en dehors de l'action, en dehors de l'ordi de l'utilisateur, notamment de la vérification avec des tests publiés, ouais. Et tout le reste. Est-ce que justement l'apparition de ces scripts, ça a permis à imaginer de nouvelles manières de gérer, de faire ce qu'on appelle une chaîne de production ?
Ben, on avait déjà des choses comme ça avant, hein. C'est-à-dire que c'était pas intégré à Subversion en tant que tel, mais tous les systèmes d'hébergement Subversion avaient un système de hooks comme ça. Donc, on n'a pas attendu Git pour mettre en place de l'intégration continue, pour mettre en place des choses comme ça. Hein. Jenkins, il n'a pas attendu Git. Mais c'est vrai que dans Git, il y a une richesse en termes de hooks. Et surtout, il y a une. Dans Git, c'est vraiment possible de travailler avec des branches et des choses comme ça. Alors que dans cette version, c'est un hack. Et du coup, il y a infiniment plus de branches et infiniment plus de collaborateurs dans les projets autour de technologies du type de Git ou de Mercurial. Et de ce point de vue-là, les workflows sont plus les mêmes. On a beaucoup plus de monde qui a le droit de collaborer, beaucoup plus de monde qui a pas nécessairement besoin d'avoir des droits élevés techniques pour collaborer. Et du coup, il y a une sorte d'explosion sur l'automatisation des workflows, de vérifs, de fusion, de livraison, etc. Mais je pense que c'est pas la présence des hooks ou pas qui a fait ça, parce qu'elle existait déjà avant, même si elle était plus grossière. C'est plus arriver sur des systèmes qui favorisent réellement la collaboration.
Alors, j'ai parlé en intro tout à l'heure de ce que c'était qu'une branche. À quoi servent les branches et comment mal se servir des branches ?
Une branche, fondamentalement, elle sert à dire « je vais aussi bosser là-dessus, mais pas que ». Et j'ai pas envie de polluer mon travail X parce que je suis aussi en train d'expérimenter les trucs Y et Z et T et U et V et voilà et autant qu'on veut. Et c'est totalement critique de pouvoir faire ça, pas simplement pour ces expérimentations. Les branches, elles servent à plein de choses. Tous les workflows sont basés sur les branches. Ça peut être pour livrer des versions, ça peut être pour faire de la recette, de l'assurance qualité, ça peut être pour un million de d'usages, pour proposer une modification dans un dépôt où par ailleurs on n'a pas les droits. Ça peut être pour plein de trucs. C'est la clé vraiment d'un système de gestion de source. Sans branche, on n'est pas libéré, on est obligé de nous-mêmes jongler avec des balles avec lesquelles on ne devrait pas avoir à jongler. Les branches nous permettent de mettre tous les boulots de côté qu'on veut, d'y revenir quand on veut, de les réconcilier avec ce qu'on a fait entre-temps. Donc, ça se manipule très facilement et c'est là où Git a une énorme différence avec Subversion, c'est que dans Subversion, il n'y a pas réellement la notion de branche et faire une branche, c'est quelque chose qui est techniquement coûteux en temps et en espace de stockage et en réseau et en tout ce que tu veux. Et du coup, les gens en font peu. Dans des technologies comme Git, faire une branche a un coût proche de nul techniquement. C'est, si j'exagère, c'est 40 octets sur le disque dur, donc c'est vraiment instantané. Et ça a un coût proche de zéro en termes de ce qu'on appelle un coût marginal nul en réseau, en stockage, en tout ce que tu veux. Et du coup, bah, les gens s'en servent, quoi. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Du coup, les gens s'en servent parce que c'est faisable. Alors que souvent, dans un système subversion, il y a trois branches qui se battent en duel maximum, quoi.
On peut aussi mal s'en servir, comme je l'ai dit. Moi, j'ai vu des projets avec une cinquantaine de broches où on picorait des commits à gauche, à droite pour les appliquer. Donc, ça demande...
Ah bah, il y a un savoir-faire.
Ça demande quand même, effectivement, d'être rigoureux, quoi.
Ouais, alors en même temps, j'ai envie de dire, on est développeur, on manipule du code. L'ordinateur en face est bête. Si on n'est pas rigoureux, ça va mal se passer, quoi. Tu vois,
l'usage des outils de version, donc à partir de 2005, c'est aussi arrivé en même temps que la popularité des méthodes agiles et de l'extreme programming. Est-ce que c'est lié?
Je pense pas qu'on puisse être agile si on n'a pas une vraie gestion de source, clairement. Je pense que c'est une condition sine qua non, parce que justement, indépendamment de tout le business à deux balles qui s'est monté autour de l'agile, sur les fondamentaux de l'agile, sur les principes noyaux du manifeste, on a besoin de pouvoir comme ça sautiller d'une idée à l'autre, paralléliser le travail, etc. Si on n'a pas une vraie gestion de source fluide, c'est juste techniquement il y a un bloqueur, quoi.
Donc l'annonce qui mène justement à l'enregistrement de entre autres de cette émission, c'est le fait que Microsoft rachète pour le prix de 3 fois Minecraft GitHub. Microsoft édite ses propres solutions de version de source. Ça existe d'ailleurs depuis le début des années 90.
Très longtemps.
Il propose ça. Mais il passe à Git au point d'avoir développé GVFS. Donc, c'est un système de fichiers qui est spécialement adapté à Git et qui, si je me trompe, n'a été développé que pour les serveurs Windows pour l'instant.
Ils sont depuis plusieurs mois au travail sur la pull request qui va le réintégrer dans Git Core.
Ok. Voilà. Waouh, ça promet. Est-ce que toi-même tu as essayé leur propre solution proprio, Team Foundation Version Control?
Alors oui, ça m'est arrivé d'avoir à souffrir avec TFS. Alors il faut voir qu'en fait, chez Microsoft, ils sont passés universellement à Git depuis des années en fait. Et donc ils utilisent TFS en mode Git, c'est-à-dire qu'ils utilisent des aspects gestion de projet de TFS, mais pas du tout pour la version. Ils utilisent Git et le GVFS pour la version, et parce que TFS en soi est très en retard à ce niveau-là, il est centralisé comme subversion, etc. C'est le verrouillage pessimiste, c'est une cata. Avant ils avaient SourceSafe Microsoft qui a été le grand-père de TFS, et donc l'architecture n'avait pas bougé. Donc aujourd'hui chez Microsoft ils se servent toujours de TFS pour la partie gestion de projet, intégration, ALM, etc. Mais ils l'utilisent toujours en mode Git sur leur serveur Git en décentralisé, les serveurs qui sont hébergés sur Azure, et ils sont à fond dans Git, et ils font partie d'ailleurs des principaux contributeurs au code source open source de Git. Depuis des années, ils ont un nombre de commits où collectivement les employés Microsoft collectivement représentent le plus gros committeur à Git Core aujourd'hui. Entre autres, là, ils travaillent beaucoup au rétroportage du GVFS dans Git Core parce que c'est super bien. Et en fait, eux, c'était une obligation. Ils ne pouvaient pas versionner la codebase de Windows sur Git avec juste Git normal. Ça n'avait pas été prévu pour des codebases aussi grosses que ça. Parce que le noyau Linux, c'est bien beau, mais je crois que c'est de l'ordre de, je sais plus, 32 000 ou 320 000 fichiers. Enfin, ça va, c'est pas... La codebase de Windows a une version instantanée à un moment donné. C'est 3 Tera et c'est plus de 4 milliards de fichiers. Donc, le côté, tiens, Git pool, non. Tu vois, c'est... Je veux dire, ou alors tu prends de gros RTT. Donc c'était juste pas possible pour eux, sachant que chez Microsoft, il y a des produits entiers qui vivent dans la codebase de Windows. Microsoft Edge, par exemple, n'est pas un dépôt à part. Il est dans la codebase de Windows. Si tu veux travailler que sur Edge, tu as besoin de pouvoir dire, moi je vais prendre la codebase de Windows, mais seulement ça, etc. Et que ça se passe de manière très fluide. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont travaillé là-dessus. Et ils poussent un petit peu TFS, mais en vrai, Microsoft, ils sont intégrés avec GitHub et tout depuis, et GitLab et tout ça depuis extrêmement longtemps. Dans Visual Studio Code et tout ça, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Mais oui, dans le public de Microsoft et dans le public corp de Microsoft, il y a toujours des gens qui veulent une solution intégrée de gestion, de projet, et pas tellement de gestion de source. Et ça passe souvent par TFS, ouais.
C'est l'idée, ce qui est en train de partir chez Microsoft, qui était l'idée d'un écosystème global. La preuve, c'est qu'ils en sortent. On fait un break musical, on revient juste après ça. Charlie Parker, Don't Blame Me. Vous écoutez Radio FMR. GitHub est un service cloud en SaaS, Software as a Service, un système complet, autosuffisant, où on n'a plus qu'à s'inscrire et à interagir. GitHub.com est basé sur le logiciel libre Git, sur lequel une couche graphique web est appliquée, ainsi que des fonctions spécifiques qui n'existaient pas au début de Git. On peut ainsi cloner dans son coin un projet, attribuer des droits sur son projet, arbitrer des modifications ou écrire un mini-site statique. Un certain nombre de ces services en font un véritable réseau social pour discuter avec les développeurs d'un projet. Il est possible de signaler un bug et de participer à des projets, par exemple en écrivant la documentation sans jamais avoir codé. Un éditeur de texte visuel aide à la mise en forme sans même connaître la syntaxe Markdown. On peut même ponctuer d'emojis, raccourci d'ailleurs que j'aimerais bien désactiver moi. Ces ajouts sont propriétaires et le code est fermé, ce qui différencie GitHub de GitLab. GitHub propose des API qui peuvent dialoguer lors de certaines actions. Par exemple, il est possible d'automatiser l'avancement des tickets sur son tableau Trello, de tester son code avant publication avec Travis, d'envoyer un message d'activité vers un chat IRC ou le Slack de son équipe. GitHub aime néanmoins l'open source et lui rend à sa manière en offrant l'hébergement à tout projet dont le code est public. Cette gratuité attire l'énorme communauté venant de l'open source et d'autres par capillarité. Les sources de revenus de l'entreprise GitHub viennent de la possibilité de créer des projets non publics, de créer des organisations d'utilisateurs sous ces projets non publics et la place de marché des applications s'interfaçant avec GitHub. 1,8 million d'entreprises et d'organisations sont en place sur GitHub. La moitié des 500 plus grandes entreprises cotées américaines y sont. La plus grande organisation en nombre d'utilisateurs et en activité est actuellement Microsoft, très loin devant les autres. On trouve bien évidemment des projets logiciels très grands ou très petits sur GitHub, comme par exemple nos propres projets pour le site cpu.pm. Mais outre les logiciels, on trouve aussi des fichiers de circuits imprimés à insoler, d'objets 3D à imprimer, des livres en cours d'écriture, la plupart techniques, mais on trouve aussi des fictions, des concours de poésie et même des recettes de cuisine. GitHub est la plus grosse communauté de développeurs. Sa mascotte Octocat orne nombre d'ordi. Bien des recruteurs observent les membres de ce réseau social à la recherche du profil prometteur. Avec le rachat par Microsoft, des ponts avec LinkedIn pourraient se faire. CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Christophe Portenov, fondateur et directeur technique de Delicious Insight et grand spécialiste de Git. Alors en soi, il y a plusieurs manières d'utiliser Git en fonction de la plateforme, soit seul sur son PC, soit sur un serveur qui est auto-hébergé, soit dans une solution en SaaS, comme le proposent GitHub, GitLab et Framagit. Lequel conseilles-tu et pourquoi ?
Alors, si tu fais de l'open source, pour moi, c'est GitHub. Pour la simple et bonne raison que l'open source vit là-bas, en fait. Si tu fais de l'open source et que tu n'es pas sur GitHub, tu n'existes pas, à bien des égards. Personne n'ira le chercher ailleurs. Et tout l'écosystème de services à destination des développeurs qui la plupart du temps sont gratuits pour de l'open source, existe pour GitHub et existe rarement pour les autres. Donc, tu te prives de pas mal de choses, de beaucoup de visibilité, de beaucoup de services annexes et à bien des égards de fonctionnalités aussi, si tu n'es pas sur GitHub, sachant qu'il sera totalement gratuit pour tes projets publics open source, etc. et pour tes quelques premiers projets privés. Maintenant, si tu as du code qui, pour X raisons, a des obligations, je dirais, légales ou stratégiques, d'être hébergé, par exemple, sur une juridiction particulière, sol français ou sol européen, en fait, parce qu'il y a assez peu de juridictions qui exigent le sol national aujourd'hui, mais le sol UE, ce genre de choses, là, aujourd'hui, mais c'est probablement un truc qui va changer maintenant, mais aujourd'hui, GitHub n'a pas de CDN et tout ça, et donc tous ces serveurs sont côte ouest, aux États-Unis, donc ils sont hors de la juridiction UE, pour l'instant. Et du coup, ça, c'était un problème. Il y a aussi des gens qui voulaient aller sur pas mal de projets privés ou de choses comme ça, et qui ne voulaient pas payer chez GitHub. Donc, eux, ils hébergeaient, par exemple, et à ce moment-là, ils vont pouvoir héberger leur GitLab. Mais GitHub en auto-hébergé, le ticket d'entrée, il est relativement cher. C'est plus à destination d'entreprises d'une certaine taille. Le support qui est derrière est fabuleux, mais voilà, il y a un ticket d'entrée qui est mignon, quoi. Et donc, GitLab est pas mal. Moi, j'ai pas d'opinion sur Framagit. Je suis très content de voir tout ce qui est Frama faire des alternatives à plein d'outils, Framadate, Framagit, Framacal et tout ça. C'est super bien. Mais la seule fois de ma vie où je suis allé sur Framagit, c'est récemment pour voir le code source de Parcoursup, qui est une bouse infâme.
Oui, qui a été publié.
Une quantité de bugs absolument stratosphérique, qui vient peut-être du fait que ça a été codé par un non-développeur sorti de nulle part, qui a été missionné, on ne sait pas pourquoi. Donc je fais toujours preuve de ma diplomatie légendaire. Et bon, je suis arrivé sur Framagit, ok, je l'ai vu 10 minutes dans ma vie. J'ai pas aimé son ergonomie, mais je ne l'ai vu que 10 minutes dans ma vie, donc ça ne veut rien dire. GitLab est le vrai concurrent. C'est eux qui ne font pas tout ce que fait GitHub, loin s'en faut, qui n'ont pas du tout accès à tout l'écosystème autour de GitHub, loin s'en faut, mais qui évoluent énormément, qui se sont beaucoup professionnalisés, qui ont facilité considérablement l'installation et les mises à jour, et qui ont d'autres choses en valeur ajoutée pour les entreprises. Nous, en tant que formateurs, très régulièrement, quand on fait de la formation intra-entreprise et qu'on nous demande quelle est la solution, sachant que voilà, on n'a pas forcément du budget ou machin, ou en tout cas, on veut absolument héberger chez nous, le DirTech est à l'ancienne, il fait confiance à personne, et à côté de ça, il fout toutes ses données perso sur Google. On leur dit, prenez GitLab, installez GitLab, ça coûte rien, que vous le preniez sur des serveurs à vous, dans une droplet DigitalOcean ou ce que vous voulez. GitLab marche bien, GitLab se met bien à jour, l'ergonomie n'est pas aussi poussée, aussi raffinée que GitHub, mais elle est franchement potable, et en termes de workflow, d'intégration continue et tout, il y a une vraie solution en mode open source. Il y a un mode payant au-dessus, l'Enterprise Edition, mais GitLab, ils sont pas très bons en marketing et ils ont mis trop de trucs dans la community open source, ce qui fait que le besoin pour l'Enterprise, il est tout petit en fait. La community va satisfaire énormément de besoins relativement loin pour les entreprises, et donc se tire un peu une balle dans le pied en mettant trop peu de choses réservées à l'Enterprise Edition. Et voilà, et GitLab est très connu quand même, les gens s'en servent beaucoup et tout ça. Donc nous, on maintient GitLab sur une VM aussi pour montrer, pour faire des preuves de concept avec nos apprenants, et c'est une vraie bonne solution. Framagit, je sais pas, je peux pas avoir d'avis. Je l'ai vu 10 minutes dans ma vie, je l'ai jamais installé, je l'ai pas utilisé.
On a parlé donc de GitHub et de GitLab, mais qu'ont-ils amené à Git ? Quelle est en fait réellement la différence ?
Moi, je crois que sans GitHub, c'est pas sûr qu'aujourd'hui on ferait du Git. Ça, c'est vraiment, c'est lui qui a libéré les hordes de développeurs coincés sur SourceForge. Pour souviens-toi, SourceForge.
Pour, 99.
Pour aller, c'est ça, le truc qui aujourd'hui est juste un grand site de distribution de malware. Et c'est chez GitHub que tout le monde s'est mis à aller parce que GitHub a inventé cette notion qui s'appelle la pull request, qui est très mal nommée d'ailleurs. GitLab l'appelle la merge request et c'est bien mieux. Et donc il a tout d'un coup dit, hey, vous avez pas besoin d'avoir les droits pour collaborer sur un projet. Il a inventé ce système de fork et ce système de pull request qui ont permis en fait aux gens qui faisaient de l'open source tout d'un coup de juste massacrer la barrière d'entrée à leur projet pour les tierces personnes. Tout d'un coup, n'importe qui pouvait venir, pouvait y aller. Et ça, ça a été une très très forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que le cœur de métier d'une solution comme GitHub ou GitLab, c'est de maximiser la collaboration, y compris avec des gens externes au noyau du projet. Et ça, pour les gens qui font de l'open source, c'était une promesse, outre que l'interface était super, l'ergo était cool, c'était basé Git et tout ça, mais c'était une promesse. Beaucoup de gens sont venus à Git par GitHub. Et il y a beaucoup de gens qui collaborent à des projets, des non-techniques notamment, sans jamais toucher une ligne de Git, intégralement dans l'interface de GitHub. Qui font des commits, qui font des branches, qui éditent des trucs, qui font des code reviews. Des non-techniciens, des stakeholders, genre des business analysts, des choses comme ça. Il y en a plein. Et donc, ça a amené ce truc où, hey, les gars, il y a ce jeu de fonctionnalités phénoménal pour votre projet. Il se trouve que c'est basé Git. Alors, du coup, bah, vous allez devoir passer sur Git, mais voilà, le jeu en vaut la chandelle. Donc, ils ont vraiment servi de produit d'appel pour Git énormément. Et justement, il n'y a pas eu ça de manière comparable pour Bazaar ou Mercurial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Git a globalement gagné cette guerre, quoi.
C'est le fait que l'on puisse cloner rapidement n'importe quel projet, comme par exemple
le lecteur. Collaborer très facilement, ouais.
Comme par exemple le lecteur audio du site cpu.pm. Facile. En soi, donc, on dit que, d'ailleurs, on dit que chez GitHub, il n'y a pas que les codeurs qui passent des commits. Même la
La femme de ménage, elle commit chez GitHub. C'est... Mais vraiment, hein.
Alors explique comment.
Vrai, la femme de ménage, elle log ses heures en committant sur un dépôt dédié. Le personnel de ménage. Effectivement, tout le monde chez GitHub, la DAF, le machin, tout passe par GitHub. Tous les process internes de la société passent par Git et par leur chatbot sur Campfire, Hubbot. Absolument tout passe par là. Que ce soit leur financial, leur projection, les meetings internes, tout est géré sur GitHub.
En soit, ce qu'a acheté Microsoft, c'est pas seulement uniquement une partie propriétaire qui se met sur Git, c'est surtout en fait l'ensemble de l'écosystème et que c'est un quasi monopole de fait, quoi. C'est le problème. Ouais. On est dans un système de silos aussi, quand même.
Oui. En fait, juste parce qu'il y a personne qui a fait aussi bien, quoi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, si tu fais de l'open source, t'es sur GitHub ou personne te voit. Et c'est pas qu'il n'y a pas autre chose. C'est qu'il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. Effectivement, ils ont été là au bon moment. Ils sont arrivés suffisamment tôt avec suffisamment de valeur. Donc, tout le monde y est allé. À partir de quoi, effectivement, comme l'écosystème a suivi, et Microsoft, effectivement, a acheté l'audience. Il a acheté l'accès à quasiment tous les développeurs open source de la planète. Comme ils ont LinkedIn à côté, je te laisse imaginer les synergies intéressantes. Automatiquement, dans tous les modules recrutement de LinkedIn, on va voir les synthèses de profils GitHub. Enfin, c'est évident. Je suis certain de ça. Ils ont acheté une intégration hyper fine, donc que moi j'ai hâte de voir venir. Et avec Azure, au niveau de la deployment pipeline, où là, il y a déjà des choses très, très bien, mais là, pour le coup, ils vont vraiment pouvoir se faire plaisir. Et avec Visual Studio et VS Code. Microsoft, c'est une boîte centrée autour des devs, dès le début, plus tellement au milieu, mais déjà de nouveau depuis longtemps. Et tout ce qui peut leur permettre de fournir une expérience unifiée, fluide au niveau des devs, ça les intéresse. Donc, à partir de là, ils ont acheté une boîte qui perd de l'argent, parce que GitHub perd de l'argent, hein, soyons clairs. GitHub a des revenus annuels qui n'est pas très, qui sont pas très élevés par rapport à leurs coûts opérationnels et aux coûts des employés. Donc ils ont beau avoir levé plein de thunes, ils perdent de l'argent, GitHub. Une grosse partie de cet argent, c'est leur hébergement. Donc, c'est rigolo parce que ce poste, il va disparaître, en fait. Ils vont juste aller consommer 0,01% des ressources d'Azure, gratos. Et donc, du jour au lendemain, je pense qu'ils vont être profitables. juste comme ça. Mais il y a des tas de choses qui vont être intéressantes. Je pense, par exemple, qu'on va pas tarder à voir venir d'ici fin 2019, en tout cas, la notion de CDN et de peering de l'hébergement GitHub sur les régions Azure. Et on va se retrouver, même nous, développeurs, ça va bien, hein, on a que 300 millis de latence pour aller côte ouest. Mais moi, j'ai hâte de pusher sur un dépôt GitHub qui est en région Paris, tu vois, ou Marseille ou Toulouse. Ça va torcher, quoi. Et en plus de ça, on va pouvoir utiliser GitHub, si on le souhaite, pour des projets qui rentrent dans le cadre des civic technologies ou du gouvernement participatif ou machin, qui ont besoin d'attendre juridiction nationale ou européenne facilement. Et ça va se faire, ça c'est certain. Il y a plein de choses par rapport à ça. Il y a aussi d'autres trucs. C'est GitHub a vendu pas mal de licences GitHub Enterprise, mais ils ont une toute petite équipe qui a bien du mal des fois à accéder à des grands comptes. Des très gros déploiements GitHub Enterprise en Europe, il y en a peut-être 20. Genre des trucs d'au moins 5 ou 6 000 sièges. Il y en a peut-être 20. La très grande majorité, c'est entre 5 et 50 sièges. C'est rien du tout. Avec Microsoft, ils accèdent là, eux, dans leur sens, à une sales force vis-à-vis de Big Corp qui est monstrueuse. Mmh. Et inversement, c'est-à-dire que ça va alimenter leur compréhension aussi des fonctionnalités dont ont besoin ce type de projet-là pour GitHub. Tu vois, il faut absolument libérer toute cette population de rational clear case de toute façon.
Je crois aussi que là où on va se marrer, c'est tous ceux qui fuient en ce moment GitHub, qui vont sur GitLab en disant ah pitié,
ouais,
pas ils Microsoft.
Ils vont revenir entre les jambes.
Bah surtout qu'ils vont sur les serveurs Microsoft Azure puisque GitLab est hébergé chez eux, alors GitHub est chez Amazon. Donc c'est.
Non mais en plus c'est une dystopie, c'est les mêmes qui disent ça. C'est les mêmes qui s'inquiètent que Babel, par exemple, n'est pas sponsorisé par un grand compte et qui, du coup, font « Ah ouais, mais GitHub, c'est chez Microsoft. » Et ça, c'est malheureusement, on a encore beaucoup, beaucoup le réflexe des gens qui voient le Microsoft d'il y a 10 ans. Et le Microsoft d'aujourd'hui est très loin de ça. C'est un des plus grands acteurs de l'open source. C'est les mêmes qui, à côté de ça, développent sur Visual Studio Code, tu vois. Tu fais « Mais qui se passe c'est pas très cohérent ton approche, tu vois. Alors d'accord, ils sont sur Linux ou OS10, mais ils utilisent Visual Studio Code, ils utilisent plein d'autres trucs et ils déploient potentiellement sur Azure. C'est plus du tout le Microsoft que c'était il y a 15 ou 20 ans. Moi aujourd'hui, je travaille avec eux, je suis sur différents groupes de travail internes à Microsoft. Je suis un MVP Microsoft, c'est quelque chose qui aurait été inimaginable il y a 10 ans. Mais dans notre métier, il faut faire un minimum de veille, sinon on va se faire dépasser, tu vois. Faut pas garder. Ça fait longtemps que Google est plus gentil, tu vois. Les mêmes qui vont se jeter sur les projets soi-disant open source de Google, qui sont tous sauf open source, et qui sont très en mode je bouffe ta vie privée, je bouffe tes données, vont aller gueuler parce que GitHub a été racheté par Microsoft. Je pense que c'était le seul acteur de premier plan en informatique qui était pertinent pour racheter GitHub si GitHub devait se faire racheter.
Et puis d'ailleurs, ils ont mis comme nouveau CEO Nat Friedman, qui était le lead dev sur Mono, mais avant, qui était le portage open source de .NET. Mais avant ça, même, il était lead dev sur l'environnement graphique de GNOME. Et à noter d'ailleurs que...
Non, c'est quelqu'un qui a des grosses, grosses credentials dans l'open source. Ouais.
À noter d'ailleurs que l'ancien CEO, qui était l'un des fondateurs, a été remercié suite à une potentielle erreur de jugement quant à la politique d'inclusivité. C'est dire le mode de pensée qu'il y a chez GitHub.
Je connais très, très bien ce dossier parce que j'étais un copain de Tom qui s'est ferré, qui est un des fondateurs. Et j'ai été extrêmement déçu de cette affaire-là parce que je connais la personne en face, Julianne Ward, qui a souffert de ça aussi. Donc, je n'ai pas du tout aimé comment ça s'est passé. J'ai trouvé qu'effectivement, Tom avait complètement pas fait ce qu'il aurait dû faire. Le futur ex-CEO de GitHub, Chris Weinstrass, qui est un mec délicieux, lui, il va passer chez Microsoft, il va devenir Technical Fellow, ce qui est le plus haut titre technique chez Microsoft. C'est le même qu'Anders Salzberg et tout ça. Et lui, il va travailler sur justement leur offre de dev et l'intégration avec tout ça. Donc, moi, très franchement, j'ai fait un tweet l'autre jour où je me suis dit, je vais me faire incendier, mais en fait, j'ai pas tant de public que ça, donc ça va, statistiquement, je me suis pas fait incendier. Le c'est que Microsoft est peut-être la seule boîte tech où les questions de diversité et d'inclusivité sont prises vraiment très au sérieux et sont très bien gérées. Et où la culture est très, très, très peu toxique par rapport à ça. GitHub, à beau être une boîte tech géniale sur un million d'aspects, ils ont un problème persistant de diversité et d'inclusivité, de harcèlement, de choses comme ça. Donc, ils ont beau avoir fait des gros progrès dessus, ça traîne encore. Moi-même, par la bande, j'ai pas mal de retours d'anecdotes où on sent que c'est pas fini. Et quelque part, le fait d'être acheté par Microsoft, beaucoup plus que par Google, ça veut peut-être dire que d'ici un an ou deux, c'est une question qui sera réglée. Parce que la culture de Microsoft est nettement plus saine à ce niveau-là.
GitHub a une mascotte qui est très amusante d'ailleurs, qui s'appelle Octocat, que l'on voit même sur sur les trucs de mode au Japon et tout ça. Dans le siège social de GitHub, il y a une réplique du bureau ovale de la Maison Blanche. Est-ce que tu sais quelle est la devise qu'il y a sur la moquette autour de l'Octocat ?
Il n'y en a plus depuis 3 ans. La devise est sortie. Historiquement, c'était une devise autour de la méritocratie.
United Meritocracy of GitHub.
Voilà, c'est ça. Et il y a justement 3 ans, quand ça a commencé à être le shitstorm au niveau de l'inclusivité et tout, ils ont recommandé la même sans moto dessus. Mais oui, c'est assez bizarre. Quand tu vas chez GitHub sur Colin Firth Junior Street au 88, c'est assez curieux de rentrer dans ce hall de réception qui est le salon ovale. Et ceci dit, je préfère largement la nana qui habite ce salon ovale que le mec qui habite le vrai salon ovale. Hein. Je pense qu'elle est infiniment plus intelligente et sans doute plus compétente pour leader le pays que lui. Mais il y a plein de trucs délirants. Il y a un faux fossile d'Octocha qui a l'air hyper vrai, hein. qui est un faux fossile d'Octocha. Qui n'est pas l'invention de GitHub, hein, l'Octocha, soit dit en passant. Hein. Le petit personnage existait avant, ils en ont acheté les droits exclusifs. Ils l'ont ajusté pour eux. Et ils ont un type chez eux dont le boulot à temps plein, c'est de décliner les Octochas. Hein. Sa carte de visite dit qu'il est généticien Octocha. L'Octocha est rigolo, il est sympa. Personne ne sait pourquoi il y a une petite goutte qui tombe de la queue. Et c'est vrai qu'il il fait partie de cet imaginaire marketing un peu sympa, un peu chaleureux sur GitHub qui est rigolo, mais... les locaux de GitHub sont assez fous. Hein. On reste dans la boîte de la vallée qui cash burn un petit peu sur les locaux. Hein. C'est pas Facebook non plus, mais...
À voir. Christophe Porteneuve, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup aussi de ne pas s'avoir débordé. Merci beaucoup aussi d'avoir pris un rythme qui sied mieux à ceux qui traduisent en langue des signes. Et au plaisir de te revoir puisque tu viens de temps à autre sur Toulouse, au Capitole du Libre, à ce genre d'événement. Donc, tu es le bienvenu si tu passes nous voir.
Ok, merci à toi.
CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskritch, Chief Merger Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et sa documentation sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. À l'exception des parties musicales, les chroniques et interviews sont en Creative Commons. Et nous avons un dépôt GitHub. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé.